quelqu'un m'a posé la question de comment je me positionne en tant qu'enseignant-chercheur. Je me vois un peu comme un colibri dans la mine. Vous savez, ces petits animaux-là qui vont du coup chanter s'il y a du gaz néfaste qui arrive. Quelqu'un qui va alerter les gens sur les enjeux contemporains. En fait, je me considère comme ça, en fait, en tant qu'enseignant, d'aider les étudiants et étudiantes à faire face aux défis du futur.
Comment le design est-il enseigné en France? C'est la question que nous allons approfondir du point de vue des pédagogues avec nos invités Jocelyne Leboeuf, Anthony Mazure et Rachel Donna. Dans le premier chapitre, nous allons comprendre la structure de l'enseignement du design en France. On parlera du rapport entre l'enseignement et le marché. Dans le second chapitre, nos invités nous expliquent comment les formations sont conçues. Nous parlerons aussi de la différence entre les formations initiales et les formations professionnelles. Dans une troisième partie, nos invités partagent leurs critiques des modèles d'enseignement présents et des réflexions pour le futur. Pour conclure, nous parlerons dans le quatrième chapitre de la recherche académique en design. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur notre site internet designmasterclass.fr et sur les plateformes habituelles Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Vous souhaitez aller plus loin? En vous abonnant à notre newsletter, vous allez recevoir une liste de livres, ressources et des bonus. Rendez-vous sur notre site internet. Chapitre 1. Enseignement du design. Jocelyne Leboeuf nous explique les origines et l'évolution académique de l'enseignement du design en France.
Je m'appelle Jocelyne Leboeuf, j'ai été enseignante en histoire de l'art et du design, directrice des études et directrice de la recherche à l'école de design Nantes Atlantique pendant une trentaine d'années. J'ai mené parallèlement à cela des recherches historiques en histoire et critique des arts sur l'esthétique industrielle en France après la Seconde Guerre mondiale. Et à l'occasion de cette recherche, j'ai publié un livre sur Jacques Viennot qui est paru en 2006 aux presses universitaires de Rennes. J'ai participé également à un certain nombre d'autres publications et je tiens un blog depuis 2009 qui s'intitule « Design et histoire au pluriel ». Actuellement, je poursuis certaines activités autour du design en faisant partie du comité de rédaction en chef de la revue « Sciences du design » qui a été créée en 2015 par Stéphane Vial et Alain Findely. Et qui est dirigé par Stéphane Vial. Et on va d'ailleurs faire paraître un numéro là au printemps sur l'enseignement du design. L'histoire de l'enseignement du design en France est ancrée pour une bonne part dans celle des formations en art appliqué. Stéphane Laurent qui a publié un ouvrage sur cette question qui s'intitule L'art utile, donc retrace bien cette histoire des écoles d'art appliqué depuis le 19e siècle jusqu'aux années 50. Et moi-même, dans le livre sur Viennot que j'ai fait paraître en 2006, j'ai retracé donc la mise en place de l'enseignement de l'esthétique industrielle en France après la Seconde Guerre mondiale. Une des particularités françaises, c'est la diversité des structures d'enseignement en fait qui sont réparties entre différentes écoles, entre le privé et le public, et qui est aussi sous la tutelle de différents ministères, l'enseignement supérieur, ministère de la culture, ministère de l'industrie. Et on a un paysage en fait qui se répartit entre des formations qui dépendent de l'éducation nationale, entre autres pour tout ce qui est lycée, école publique d'art appliqué, avec des formations qui étaient plutôt en bac plus 2, bac plus 4, BTS et DSAA, et qui maintenant vont vers des formations DNMAD en bac plus 3 et master en bac plus 5. On a les grandes écoles, qui sont elles-mêmes sous différents statuts, des statuts publics, privés. On a les écoles des beaux-arts et des arts décoratifs, donc qui sont placées, elles, sous l'égide du ministère de la Culture. Et puis, plus récemment, l'enseignement du design intègre l'université. Il y a eu de nombreux montages en fait, de formations ces dernières années à l'université, mais aussi dans les grandes écoles, à la faveur de nouveaux programmes de master pluridisciplinaires sur des thématiques spécialisées dans le domaine des sciences humaines et sociales, de l'infocom, des humanités numériques. Et on assiste aussi à beaucoup actuellement un phénomène de partenariat entre l'université et les écoles, mais aussi entre les écoles publiques et les écoles privées. Alors ces formations au design correspondent à des cultures du design qui sont très diverses selon les métiers en fait qu'elles recouvrent. Ces dernières années, on a vu une extension de ces métiers avec le numérique. Mais aussi le développement de champs spécialisés autour des notions de service, autour de grandes questions sociales, économiques, écologiques aussi. Avec donc voilà, on a je dirais d'un côté une multiplication de spécialisations, de nouveaux métiers, et puis un courant aussi qui est enseigné de plus en plus, qui est celui du design thinking, donc qui met plutôt l'accent sur des processus ou des méthodes qu'on pourrait considérer comme étant transversales à toutes les formes de design. Alors, au-delà de cette hétérogénéité, j'ai lu différents rapports du ministère de l'enseignement supérieur qui montrent une volonté de rendre un petit peu plus lisible en fait toutes les offres de formation, en particulier par l'harmonisation des diplômes sur la base du licence, master, doctorat qu'on appelle le processus de Bologne. Cette mise en place, non seulement pour les écoles qui dépendent de l'éducation nationale, mais aussi pour celles qui dépendent du ministère de la Culture et pour certaines écoles privées qui en font la demande avec ce rapprochement aussi public-privé dont j'ai parlé pour ces dernières années. J'ai tenté une présentation d'ailleurs de toutes ces formations en design dans une synthèse que j'ai publiée sur mon blog pour des personnes qui seraient intéressées pour un petit peu plus comprendre en fait cette hétérogénéité française des structures de formation.
Anthony Mazur nous raconte les différentes approches d'enseignement en Europe et les particularités des différentes cultures.
Je suis Anthony Mazur, actuellement je suis professeur associé et responsable de la recherche à la Haute École d'Art et de Design de Genève, la HED, où je suis depuis 2 ans et demi. J'y coordonne tous les projets de recherche de l'école en tant en art qu'en design. Et j'ai également quelques charges d'enseignement. Au niveau de la pédagogie, j'enseigne depuis 2008. J'ai commencé à l'université Paris 1 Sorbonne. J'ai ensuite enseigné dans le secondaire, dans l'éducation nationale, à Boulogne-Billancourt. À l'époque, ça s'appelait un BTS multimédia. Et puis, j'ai également enseigné dans le privé, notamment au campus Fonderie de l'Image à Bagnolet et à l'université Toulouse-Jean Jaurès, juste avant de rejoindre la Suisse. Quand j'ai démarré ma thèse en 2008, je devais donner des cours en même temps pour du coup dans le cadre de mon contrat. Et durant ma carrière, j'enseignais plusieurs types de choses, majoritairement des cours d'initiation à la recherche, de rédaction de mémoire, mais j'ai également animé des workshops et des cours pratiques en design graphique, design web, design produit également. Et puis, j'ai aussi fait pas mal de jurys, qui sont aussi des formes d'enseignement, dans un sens, notamment en école d'art, ce qui fait que j'ai couvert au niveau français les 3 ministères, enseignement supérieur, culture et communication et éducation nationale. Le design aujourd'hui est, dans la plupart des écoles, pas qu'en France, y compris à l'international, divisé en disciplines, ou en champs, c'est-à-dire design graphique, design d'espace, par exemple, design d'objets, design de mode. Et du coup, je pense que c'est aussi un enjeu important dont on devrait discuter ensemble. Et puis, toutes les écoles, évidemment, que la crise sanitaire font face au défi de l'enseignement en ligne, ce qui, pour des écoles d'art et design, n'est pas du tout évident, étant donné que le cœur de l'enseignement, c'est l'atelier pour beaucoup de ces écoles, et que, par exemple, faire de la soudure chez soi, c'est un petit peu compliqué si on n'a pas le matériel. Et donc, on voit que par rapport à ces apprentissages techniques, on a des défis importants à relever dans les années à venir par rapport à ces enseignements à distance qui risquent de perdurer. Pour l'enseignement du design, je pense qu'il existe plusieurs approches. C'est même d'ailleurs tout à fait souhaitable. Il n'est pas hors de question que ça devienne stéréotypé et réduit à une seule approche. Déjà en France, j'ai déjà évoqué, c'est le cas avec la division entre ministères et plusieurs approches possibles, même si évidemment ce serait trop vraiment réducteur de dire que la fac c'est théorique et les écoles d'art de la culture c'est plutôt un atelier, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a de la recherche au sein du ministère de la Culture ou des écoles qui en dépendent, et il y a des universités comme à Toulouse où j'enseignais qui ont des ateliers et qui mettent l'accent sur le projet. Donc, je me bats contre cette opposition théorie-pratique qui ne sert pas à grand-chose. Mais alors, ce qui peut faire la différence, du coup, je dirais, c'est peut-être la distance ou l'adhésion au monde professionnel. Ça, c'est déjà un enjeu important. Est-ce que l'école doit former des personnes immédiatement employables? Auquel cas, du coup, ben pourquoi pas? Du coup, ben, la distance critique, on va peut-être un petit peu la mettre de côté, y compris la prospection. Parce que du coup, si on est trop prospectif ou si on anticipe trop les enjeux du futur, bah du coup, on devient inadapté au présent. On est peut-être adapté au futur, mais on est moins adapté au temps présent. Ça, c'est peut-être déjà un premier axe important. Ensuite, bah on a parlé des différents champs du design. Est-ce que telle ou telle école va tout aborder ou se spécialiser dans un domaine? Il y a aussi la part internationale qui peut faire une grosse différence. À l'échelle européenne, il y a des exemples qui me semblent assez intéressants à étudier. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison sur tout, hein, mais c'est pour vous montrer qu'une diversité existe. Je pense notamment à un master en design en Islande, où du coup les choses sont beaucoup plus transversales et thématisées. Il me semble qu'ils ont une filière autour de la biologie et du design. C'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver aux Pays-Bas, qui du coup va être thématisé sur des enjeux contemporains qui dépassent du coup largement les disciplines habituelles du design. Est-ce que voilà, si demain on travaille des interfaces sur des puces qui comportent des organismes vivants, est-ce que c'est du design produit, graphique? Est-ce que c'est de la mode si ça touche aux vêtements ou wearables? J'en sais rien, mais à vrai dire, c'est pas une question très importante. La question, c'est est-ce que c'est les projets ou les objets qu'on produit sont pertinents, sont cohérents, ont un public et posent des questions intéressantes et sont soutenables. Du coup, on voit que ces catégories sont bloquantes. Donc, heureusement, à l'échelle européenne, il y a quelques tentatives pour développer ça. Il y a aussi un problème structurel qui peut-être est moins présent dans d'autres pays. Un problème structurel à l'échelle française, c'est que la France n'est pas vraiment un pays de design, au sens où il y a toujours cette tension entre art décoratif et design, au sens historique, ce qui est beaucoup moins vrai en Italie, aux Pays-Bas ou en Suisse, où du coup, pour ce qui me concerne, par exemple, il suffit de se balader à Genève où j'habite, dans l'espace urbain, et on voit que vraiment, ne serait-ce en termes visuels de qualité urbaine, qu'on est dans un pays où ces choses-là sont déjà acquises et qu'on va traiter de tel ou tel type de design où on discutait, mais on n'a pas besoin de redéfinir ce qu'est le design à chaque conversation. Après, il y a un enjeu aussi à l'échelle européenne intéressant, c'est aussi les réseaux d'écoles. C'est intéressant, il y en a quelques-uns qui existent, comme Cumulus ou Elia, qui vont réunir des écoles à l'échelle européenne et proposer des partages d'expériences. C'est malheureusement trop peu fréquent. Et à l'échelle nationale, ça existe, ça marche, à mon avis, assez mieux. En France, on a l'Andéa, qui réunit des écoles du ministère de la Culture, quasiment toutes. Mais malheureusement, du coup, on retombe sur la segmentation par ministère que j'évoquais auparavant, ce qui est beaucoup moins vrai en Suisse, où du coup, il y a des réseaux plus intenses. Bon, le pays est beaucoup plus petit aussi, en termes d'habitants et de géographie, mais entre les différentes écoles du pays.
Est-ce qu'une formation est nécessaire pour devenir designer et designeuse? Quelles compétences les aspirants designers et designeuses peuvent acquérir? Rachel Donna et Anthony Mazur partagent leurs réflexions sur ces questions.
Je suis Rachel Donna, je suis enseignante à Gobelin. Gobelin, c'est l'école de l'image. On fait du cinéma d'animation, on fait du design graphique, des industries graphiques, de la photographie et du design interactif. Je suis enseignante au département design interactif, notamment en design centré utilisateur. Actuellement, à Gobelin, je m'occupe de coordonner une formation qui est une formation Bac plus 5. Alors, l'intitulé officiel, c'est directeur de projet numérique UX manager. La réalité, c'est que c'est une formation qui est assez orientée pour former des designers de services, des product managers, des profils un peu comme ça, hybrides, qui manient le design centré utilisateur à un niveau stratégique. Voilà, donc c'est la formation dont je m'occupe. Je m'occupais avant d'une autre formation qui formait plus des créatifs et des développeurs, aussi au niveau Bac plus 5, donc des créatifs et des développeurs de haut niveau. Est-ce qu'un designer doit avoir une formation? Il y a plein de questions dans cette question. Est-ce qu'un designer doit avoir une accréditation? Est-ce qu'il doit être tamponné, ceci est un bon designer, par un organisme de designer? Ça, c'est une question passionnante. C'est est-ce que, en fait, et qui a trait à l'éthique, tous les métiers qui ont ce type d'accréditation, par exemple, pour être un médecin, il faut avoir prêté serment, le serment d'Hippocrate. Nous, on n'a pas un cadre éthique comme ça, est-ce qu'on devrait l'avoir et du coup créer des barrières à l'entrée, c'est-à-dire favoriser les personnes qui ont su très tôt ce qu'ils voulaient faire dans la vie et qui voulaient être designer et ont donc fait une formation longue, versus les personnes comme celles dont je m'occupe qui viennent graduellement au métier de designer petit à petit, en se formant elles-mêmes, en approfondissant des choses qu'ils ont appris dans des centres de formation, etc. C'est une question qui est passionnante et à laquelle j'ai pas de réponse. Donc voilà, est-ce que passer par une formation permettrait de se faire accréditer comme ça, comme un designer par ses pairs, par une guilde des designers? Je ne sais pas. Ensuite, est-ce qu'on a besoin d'être designer, d'avoir fait une formation pour être designer? Ça veut dire aussi, est-ce qu'il n'y a pas une grosse acculturation au design? C'est est-ce que quand on arrive avec une énorme confiance en soi et qu'on dit voilà, je vais tout changer au design, je ne vais pas faire comme tous ces designers qui font tous la même chose, je vais changer les choses, moi je sais ce qu'il faut faire, etc. Est-ce que c'est une attitude qu'on souhaite que les gens aient? Et quand quelqu'un n'a pas fait de formation, souvent il se place un petit peu en opposition avec les personnes qui ont fait une formation. Et est-ce que c'est pas une bonne chose d'avoir des personnes comme ça au sein d'une équipe de design, d'avoir des personnes qui se disent moi je suis pas comme vous. J'ai pas été formatée par une école de design. Je vais vous montrer comment on fait les choses. C'est en même temps très poil à gratter, très agaçant, et en même temps c'est assez intéressant d'avoir ça dans une équipe de design, d'avoir quelqu'un qui a pas les mêmes réflexes, pas la même culture. Et voilà, donc je trouve ça intéressant d'intégrer des personnes qui n'ont pas fait une formation de design dans une équipe. C'est un deuxième point. Et puis, je pense que dans tous les métiers créatifs, il y a une dimension qui est clé dans la réussite d'une carrière. C'est la confiance en soi. Et tout simplement, pour la plupart d'entre nous qui avons tendance à avoir des doutes. Faire une école et avoir ce cadre derrière soi de « j'ai déjà fait des projets, j'ai déjà présenté mes créations, j'ai déjà été confrontée au feedback, à la critique sur mon travail, sur ce qui sortait de mes tripes. Et j'ai été un peu mitridatisée, c'est-à-dire j'ai été insensibilisée un petit peu à ce truc qui fait mal, c'est de se prendre des critiques sur son travail créatif. Pour des gens qui sont pas débordants de confiance en soi, c'est extrêmement nécessaire pour commencer un métier créatif. Et j'aimerais beaucoup qu'ils puissent continuer à l'avoir, notamment à travers du mentorat, après leurs études. Parce que faire la part des choses entre ce qu'on nous dit de notre travail et notre vraie valeur de professionnel, c'est pas évident pour tout le monde, c'est pas donné pour tout le monde.
Ça renvoie à la distinction entre accréditation et compétences. Et parce que le design aujourd'hui, je pense dans tous les pays du monde, n'est pas ce qu'on appelle une discipline protégée ou un emploi protégé. Si on prend par exemple médecin, demain, moi, je peux pas m'improviser médecin et non, je vais aller en prison. Enfin, on va dire que j'ai une usurpation de titre, en quelque sorte. Pareil pour les avocats. Avant, c'était le cas pour les taxis. Maintenant, c'est plus vraiment le cas avec Uber. Mais voilà, ce qu'on appelle des professions réglementées ou protégées avec un titre. Architecte, c'est le cas aussi pour la garantie décennale, qui d'ailleurs est assez proche du métier de designer dans un sens. Donc la question, c'est pourquoi on n'applique pas le régime des architectes à l'ensemble du champ du design. Certaines personnes soutiennent cette position. C'est notamment le cas de Mike Montero, qui du coup plaide pour un code éthique du design, voire même un serment d'Hippocrate, comme pour les médecins. Donc un ensemble de règles éthiques auxquelles se conformer pour pouvoir exercer, sous peine d'être radié de ce champ-là et de ne plus pouvoir exercer. Alors, ça, c'est intriguant, ça peut paraître stimulant comme position. Je pense que ça pose un certain nombre d'impasses que pour l'instant, j'ai pas réussi à lever pour pouvoir être d'accord avec cette proposition. Une des impasses, c'est déjà qui va dicter les règles. Ça, c'est très compliqué. Est-ce que du coup, on va réunir des syndicats de designers? Est-ce qu'on va demander à d'autres gens? En même temps, c'est pas que les designers qui doivent élaborer leurs propres règles. Ces règles, en plus, même si elles sont pertinentes à un instant donné, bah, elles vont sans doute pas être justes à l'échelle internationale, parce que les cultures humaines étant très divergentes et heureusement différentes, ça peut pas être, une approche universaliste risquerait rapidement d'être taxée de colonialiste, à juste titre. Comment ces règles vont pouvoir évoluer dans le temps? Est-ce qu'il y aura des référendums? Si oui, comment? Quelles sont les conditions de radiation? Parce que pour un médecin, bon, les conditions de radiation peuvent être assez simples à définir. Si on a blessé quelqu'un physiquement, moralement, enfin c'est comment dire assez factuel. Maintenant, une interface qui est ratée pour qui, comment, etc., nuisible, c'est des choses plus subtiles. On est quand même dans une zone grise assez grande qui fait que du coup, l'application de cet ensemble de règles sera peut-être tout simplement impossible. Ensuite, on risquerait également, si une telle charte ou réglementation était mise en place, bah, qu'est-ce qu'on fait des autodidactes qui, quand même, pour certains, ont marqué l'histoire de la discipline, donc on leur refuse le droit d'exercer ou de créer des objets. Ça renvoie aussi à quelque chose qui fait que le design sera réservé à une caste, en quelque sorte, et qui va à l'encontre de ce que disait le designer Molinagi dans un texte fameux « Design pour la vie » de 1941, de mémoire, où il dit que le design n'est pas une profession, mais une attitude. Et du coup, si on veut mettre une... comment dire, il disait que le design renvoyait un certain état d'esprit d'inventivité, qui du coup peut être plus ou moins partagé suivant les personnes. Maintenant, si ce règlement venait être mis en place, ça veut dire que du coup, le design ne serait plus une attitude, mais une profession. Ça renverserait en quelque sorte sa phrase qui a été énoncée 80 ans auparavant, et je pense que ce serait néfaste au final. Donc je comprends ce que veut dire Mike Montero, mais je pense qu'on a peut-être plus à perdre dans cette histoire que à gagner.
Les compétences du designer, elles sont pas si éloignées des compétences d'un enseignant, dans le sens où il y a énormément de communication à faire, et notamment dans les allers-retours entre ce qui est de l'ordre du détail et ce qui est de l'ordre de l'image d'ensemble. Et ces allers-retours, ils sont permanents. Quand on enseigne, on doit s'adapter et individualiser son enseignement en fonction des personnes qu'on a en face de soi. Et ces personnes, parfois, ont besoin qu'on leur explique l'image d'ensemble, parfois, ont besoin qu'on leur explique le détail, et surtout qu'on leur explique le lien entre les deux et les passages entre les deux. Et ça, pour moi, c'est la compétence principale d'un designer aussi. C'est ce passage permanent entre la vue d'ensemble et comment ça va se traduire dans la réalité de ce qu'on est en train de concevoir, de ce qu'on est en train de décrire. Ça, c'est une chose avec laquelle les étudiants en design peinent au départ. C'est à quel niveau vous voulez qu'on se situe. Et on leur dit, il faut qu'on se situe à tous les niveaux. C'est vous êtes en train de concevoir peut-être dans le détail, mais quelque chose qui doit se raccorder à une image d'ensemble. Il y a des compétences qui se rapprochent de comprendre ce qu'on fait et former une intention. Comprendre pourquoi on est en train de concevoir quelque chose et former une intention par rapport à ce quelque chose qu'on conçoit. Et il y a des compétences qui sont plus de l'ordre de décrire ce quelque chose qu'on conçoit, qui sont plus des compétences techniques, faire un storyboard, faire une illustration, savoir faire un bon prototype, dessiner, c'est des compétences qui sont de l'ordre de décrire la solution, alors que les compétences qui sont plus comprendre le contexte et former une intention par rapport à ce contexte, c'est d'autres compétences, et certains peuvent posséder les unes, posséder les autres. Certaines formations vont encourager les unes, certaines vont encourager les autres, certaines vont essayer de faire la totale. Voilà, ça c'est. Il y en a une myriade en fait de compétences. C'est pour ça que nous, le fait de réfléchir par métier et de se dire, on forme à tel métier et c'est les compétences nécessaires pour tel métier à un instant donné, au moment où on rédige le référentiel d'une formation, ça permet un petit peu de réduire le périmètre de ces compétences-là. Ces métiers, ils évoluent. Ils évoluent dans le temps. Notamment là, on a des métiers qui sont apparus ces dernières années autour du produit, du design de produit, du management de produit, qui est très lié au design de produit, et du design de service. Et ça, c'est des métiers qui sont pas encore complètement présents en France. Et ce sont les métiers autour desquels j'ai fait évoluer un référentiel qui existait déjà, un référentiel de compétences qui existait déjà, pour les adapter à ces nouveaux métiers. Et donc, c'est pour ça que je suis allée interroger des personnes qui faisaient ces métiers-là et que France Compétences, donc l'organisme qui est chargé de valider les titres professionnels, de dire « ceci est un titre officiel, ça va vous donner droit à au niveau Bac plus 5 », France Compétences demande de renouveler régulièrement, donc soit tous les 3 ans, soit tous les 5 ans, les titres professionnels et nous exige que on aille faire à nouveau cette enquête de est-ce que ce métier existe toujours, est-ce qu'il a les mêmes compétences, et donc on est obligé de renouveler nos titres, mais de toute façon on a envie de le renouveler. Et à vrai dire, on doit prouver qu'il existe des personnes en France qui exercent ce métier et qui gagnent leur vie avec ce métier. Ce qui est à la fois très bien parce que ça nous donne un cadre et qui est aussi limitant parce que qu'est-ce qu'on fait des métiers de demain ? Qu'est-ce qu'on fait des métiers qui n'existent pas encore en France ? Notamment le designer de service, ça existe très peu en France. Ça a été très compliqué pour moi de prouver qu'il y avait une opportunité de carrière pour des étudiants Bac plus 5 en étant designer de service. Je sais qu'il y en a, j'ai été designer de service. Ceci dit, c'est un tout petit nombre en France. On pense que ça va évoluer. On pense en tout cas que les compétences du designer de service sont des compétences qui seront utiles à des professionnels de demain, quel que soit le titre qu'ils auront. Mais c'est impossible de créer un titre professionnel qui corresponde à ces compétences-là. Donc voilà, on a dû biaiser.
Quel est le rapport de force entre l'entreprise, le marché du travail et l'enseignement du design ? Est-ce que l'objectif de l'enseignement est de former les futurs employés des entreprises ?
Le design, bon, s'inscrit forcément dans l'économie comme il s'inscrit dans le politique, en fait, hein, au titre de son pouvoir d'agir sur la transformation du monde. Mais il faut que les étudiants, par rapport à ces partenariats, par rapport à l'entreprise, soient des étudiants qui soient en mesure, en fonction des évolutions de société, en fonction de toutes ces questions écologiques, de toutes ces urgences en fait auxquelles on a à faire face actuellement, soient en mesure d'apporter des bonnes questions autour de l'innovation dans les entreprises. Donc le lien avec le marché, évidemment qu'il y en a. Et je pense que le rôle des designers, c'est effectivement d'apporter un regard, je dirais, éclairé, enfin, sur ces questions-là. Et c'est bien à l'école qu'on doit former les étudiants pour ça.
On pourrait discuter de la relation du marché du travail à l'enseignement, à savoir qui influence l'autre. C'est une question compliquée. Je pense que ça dépend vraiment des endroits. Dans des exemples extrêmes et très négatifs, je pense à Google qui en France, alors c'est pas directement dans le design, mais qui dans certaines facs maintenant, non seulement finance mais diplôme des formations. Il y a aussi l'école 42 qui est une école de développement informatique créée par Xavier Niel de Free, qui du coup a pour vocation entre autres de trouver les futurs talents de l'entreprise. Où là du coup c'est carrément une école d'entreprise en quelque sorte. Est-ce qu'on arrivera à ça dans le futur dans le champ du design? Je ne l'espère pas. Parce que du coup, ça crée un problème de licence critique assez évident. Même si 42, par exemple, forme d'excellents développeurs et développeuses, il n'y a aucun cours de théorie, d'éthique ou de morale, ce qui du coup peut-être fait que paradoxalement, ces personnes-là sont très efficaces. Je pense qu'il y a un lien direct entre les deux. Maintenant, moi, c'est pas du tout ma vision de l'enseignement. Je pense qu'au contraire, les écoles doivent tenir un équilibre. Entre d'une part la professionnalisation, ça je pense que c'est important parce que si on perd ça de vue, les gens peuvent être dégoûtés du milieu dans lequel ils doivent exercer et finalement la profession va jamais se renouveler et les personnes les plus brillantes vont finalement faire de la permaculture, C'est quelque chose qu'on observe vraiment en école d'art, hein, où du coup, pourquoi pas travailler dans des... c'est le cas dans pas mal d'écoles d'art, où le premier employeur, ça peut être des magasins bio, par exemple. Mais est-ce que c'est le propre d'une école d'art de former ce type d'employé? Je pense pas. Donc, trouver une connaissance intime du marché, du milieu, des acteurs, de l'insertion professionnelle, ce qui n'empêche pas, et c'est là où ça devient compliqué à conjuguer, mais je pense que c'est le défi qu'on doit relever, un point de vue critique et prospectif. Parce que du coup, si on est trop en miroir par rapport au marché, dans ce cas, on fait que le reproduire. Et évidemment, la situation actuelle étant problématique, comme d'ailleurs à toute époque, hein, sur tout un tas de points, c'est l'enjeu des écoles de profiter de ce temps libre, du temps protégé, du fait que échouer n'est pas si grave parce qu'il y a pas vraiment de conséquences économiques, pour du coup proposer des nouvelles choses et renouveler le monde. Hein, ce que disait Hannah Arendt, que c'est la philosophe, que c'est la tâche des générations futures de renouveler un monde commun. Et je pense que l'école doit œuvrer à ce renouvellement plutôt que de copier servilement ce qui se fait déjà. Donc c'est pour ça que je me méfie, parfois voilà, on se demande est-ce qu'on est enseignant ou formateur, mais formateur, c'est-à-dire qu'on formate comme un disque dur ou voilà. Et je pense que c'est quelque chose dont on doit se méfier. Évidemment, si on formate pas du tout, les personnes sont peut-être inadaptées au marché actuel, mais si on formate trop, elles vont être adaptées, mais elles vont rien apporter d'intéressant. Donc je pense qu'il y a du coup un engagement politique, social que les écoles doivent assumer et revendiquer.
On a toujours dans les journées portes ouvertes des parents qui viennent et qui nous demandent « mais est-ce qu'on peut vraiment vivre du design ?» C'est vraiment la question clé qui se posent les parents qui sont inquiets pour leurs enfants. Est-ce qu'on peut vraiment vivre du design ? Ce qui n'est pas une question pour les gens qui vivent dans des milieux créatifs, parce qu'ils voient bien autour d'eux qu'il y a des designers qui vivent très bien du design. J'ai donné des cours dans une école de journalisme le mois dernier. Quand les étudiants m'ont demandé combien gagnait un designer, on s'est rendu compte que c'était nettement plus qu'un journaliste. Journaliste, c'est un métier sur lequel les parents sont moins inquiets. Donc, est-ce qu'on gagne sa vie avec le design ? C'est une question à laquelle il faudrait qu'on arrive à répondre plus dans les médias, à devancer la question en fait, à montrer des designers qui réussissent autre que les stars montrer que c'est une vraie orientation, qu'il y a du boulot là-dedans. Ça permettrait qu'il y ait plus de gens différents qui se tournent vers le design.
Chapitre 2. Concevoir une formation. Rachel et Anthony nous expliquent comment concevoir une formation en design et les défis rencontrés.
Ce qui se passe dans la cuisine du concepteur de formation, du concepteur pédagogique, on parle de plus en plus de design, instructional design ou design de formation. C'est parce que c'est exactement les mêmes mécaniques. C'est-à-dire que on doit définir quel est notre objectif. Cet objectif, effectivement, souvent il est dérivé de notre analyse de ce qu'est un métier et de ce que sont les compétences à enseigner. À partir de ces compétences-là, soit moi j'ai déjà identifié des formateurs qui peuvent le faire, soit j'ai déjà fait des modules qui visaient à créer ces compétences. Quoi qu'il en soit, voilà, on part de la compétence. Et avec notre expérience et avec notre connaissance de la pratique d'enseignement, etc., on va élaborer ce qui s'appelle une séquence pédagogique, c'est-à-dire un ensemble de quels sont les savoirs à acquérir par les étudiants, quelles sont les compétences à acquérir par les étudiants, mais de le faire de plus en plus dans une plus grande granularité, petit à petit, avec une granularité la plus fine possible, on va les articuler dans le temps. On va se demander quel est l'exercice qui permet le mieux de travailler cette petite partie de la compétence. On va voir comment ça se construit, c'est-à-dire que mais cette compétence-là, pour l'obtenir, il faut avoir déjà obtenu une autre compétence. Donc on va un petit peu échelonner comme ça les choses dans le temps faire rentrer ça dans le temps dont on dispose. C'est c'est pas forcément nous qui décidons le temps dont on dispose. Souvent, c'est une donnée qui est avec laquelle on doit composer. Donc, on fait rentrer ça dans le temps dont on dispose. Là-dedans, dans tout ce processus, il faut aussi garder en tête nos utilisateurs, nos étudiants, la connaissance qu'on a d'eux. Ça fait quelques années que je fréquente les étudiants. Donc, les étudiants dont je m'occupe actuellement, dont je suis coordinatrice, je donne des cours dans cette formation depuis 8 ans. J'ai vu plusieurs promos se succéder. Et en plus, c'est l'ancienne formation dont je suis issue. J'ai vu plusieurs promos se succéder. Je les ai vus évoluer. Je suis assez de plus en plus capable de prévoir ce qui va les intéresser comme exercice, ce qui est trop dur, ce qui est trop flou, ce qui est voilà. On travaille un peu comme ça. Donc on part de l'objectif d'acquisition de compétences. On essaie de détailler ça le plus possible, de ranger ça dans les cases qui sont celles du temps dont on dispose, des cours dont on dispose, des exercices qu'on a. Il y a un bouquin qui est très bien, qui s'appelle « How I Teach » de John Colco, qui est tout simple à lire. Il explique juste ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire comment on part d'un objectif et on va le subdiviser. En séquence de formation.
Dans ma carrière, j'ai été amené 2 fois à concevoir un programme entier, c'est-à-dire un ensemble de cours et pas seulement un cours en particulier. La première fois, c'était au campus Fonderie de l'Image à Bagnolet qui m'avait confié, j'avais même pas 30 ans à l'époque, la refonte d'un master, parce que c'est privé, en alternance de design graphique. Et du coup, comment je m'y suis pris? Je me demande, c'est peut-être un peu naïf, mais je me suis demandé, c'est quoi la formation idéale que j'aurais aimé avoir? Donc, j'ai essayé d'identifier des grands enjeux. Et puis, si on prend l'enjeu de l'enseignement en général, je dirais que l'enjeu, c'est pas de former je crois que c'est Lao Tzu qui disait ça, des esclaves et de former des maîtres, c'est-à-dire des personnes qui vont idéalement être meilleures que les personnes qui enseignent. Si on a une vision de former des gens qui vont reproduire ce qu'on fait en tant qu'enseignant ou enseignante, ça n'a pas grand intérêt parce que du coup, il y a de fortes chances que ce soit moins bien. Moi, l'objectif, c'est que les personnes, les étudiants et étudiantes que j'essaie de faire avancer, c'est qu'ils soient meilleurs que moi, ou pas forcément dans mon domaine, on s'en fiche, mais en tout cas dans tout ce que j'aurais pu faire dans ma vie. De leur donner confiance, ça c'est très important aussi, la notion de confiance, avant même de parler de thématiques, parce qu'on est dans une époque super flippante, y compris le marché du travail, la situation sanitaire, et que du coup, des personnes qui sont pas en confiance auront du mal à trouver la motivation. Et c'est aussi les respecter que de faire preuve d'exigence dans les rendus, dans la présence, dans le savoir-être, dans le savoir-vivre. Maintenant, pour les contenus des cours en eux-mêmes et les types des personnes, je pense qu'un programme réussi, c'est une équipe cohérente. Donc, je dirais, faut déjà s'appuyer sur des personnes qui sont capables et qui ont envie de travailler ensemble et en harmonie, en confiance et en cohérence. Parce qu'on peut faire le programme abstrait le mieux qu'on veut, on peut avoir le meilleur prof du monde. Si cette personne-là vient pas à l'heure en cours ou est trop en retard, ça sert à rien. Donc, je dirais, moi, le plus important et le plus difficile, ça peut paraître peut-être assez trivial, mais c'était de trouver des personnes fiables. Une fois qu'on a ces personnes fiables, même si c'est pas forcément les meilleurs dans leur champ, et ben du coup d'essayer de les mettre au bon endroit et du coup d'anticiper, essayer d'avoir une approche à la fois très concrète sur les métiers actuels, mais aussi prospective. Donc de trouver le bon dosage entre ces différents champs, de pas avoir peur de la théorie aussi, mais de faire une théorie qui soit, comment dire, activable et qui serve directement les productions, c'est-à-dire qui permettent aux étudiants et étudiantes d'avoir du recul sur leur champ, sur le monde et sur leurs propres travaux. Et là, ça devient beaucoup plus concret que de faire de la théorie pour de la théorie, ce qui, du coup, mène pas à grand-chose d'intéressant, selon moi. D'être très rigoureux dans les syllabus, dans les rendus, dans la présence, dans les jurys, dans l'expression orale, dans l'expression écrite, dans la qualité, évidemment, des objets produits, de faire, refaire. Très, très important. De ne pas avoir peur de l'échec, de dédramatiser l'échec. Chose extrêmement importante parce que si on a peur de ça à l'école, ça va être encore bien pire après, dans le grand bain. D'introduire une vision internationale, connaissance fine de ce qui se fait ailleurs, d'importer ce qui mérite et puis d'expliquer aussi pourquoi certains choix sont faits. Je pense que c'est important aussi d'expliquer la vision des formations, d'avoir des sortes de manifestes ou de textes programmatiques qui expliquent, voilà, c'est ça la vision qu'on défend dans l'école, c'est ça notre position intellectuelle et c'est pas autre chose. On va pas chercher à tout faire, On va pas faire le en même temps propre à notre gouvernement actuel, d'avoir une position claire sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pour qui on le fait. Donc ça, c'est les grands enjeux généraux que j'ai pu développer en tant que responsable de formation. J'ai aussi pu appliquer à Toulouse, à l'université Jean Jaurès, où j'ai co-dirigé un master transdisciplinaire. C'est un master dans lequel il y avait pas de champ défini. On mélangeait du coup sciences sociales et design, mais au sens large. En fait, on partait de thématiques et de terrains, surtout de terrains d'études. Par exemple, une personne qui veut travailler, je sais pas, sur le recyclage. Bon, c'est très large dit comme ça. Du coup, ben, cette personne devait obligatoirement trouver des partenaires. Il n'y avait pas le choix. Et du coup, faire des enquêtes de terrain ou des analyses à partir de ce terrain-là. Et du coup, petit à petit, formuler son projet ou son champ de recherche à partir de ces enquêtes. Ce qui, du coup, ben, ancre nécessairement les productions. On n'est plus dans quelque chose d'abstrait où on va créer des scénarios pour des personas qui sont en fait assez vite une succession de stéréotypes. On a affaire à des personnes, à des acteurs de terrain. Et ça me semblait assez une approche assez féconde, à vrai dire, que je pense qu'il mériterait d'être développé ailleurs. Maintenant, la question suivante, c'est se demander comment on discrimine et comment on choisit parmi l'ensemble de tous les thèmes possibles sur Terre qu'on va travailler sur ci ou sur ça. C'est une question à laquelle je devais faire face, notamment à Toulouse, parce que je devais organiser des workshops. Il y avait assez peu de slots par an. Évidemment, on peut pas faire 50 workshops, c'est pas possible. Et comment on fait, du coup, pour décider qu'on va traiter de tel ou tel enjeu? Là, récemment, quelqu'un m'a posé la question de comment je me positionne en tant qu'enseignant-chercheur en général. La question était très abstraite. Et finalement, en y réfléchissant, je me suis dit, je me vois un peu comme un colibri dans la mine. Vous savez, ces petits animaux-là qui vont du coup chanter s'il y a du gaz néfaste qui arrive. Et donc, un peu comme quelqu'un qui va alerter les gens sur les enjeux contemporains. En fait, je me considère comme ça, en fait, en tant qu'enseignant, d'aider les étudiants et étudiantes à faire face aux défis du futur. Et donc, si je peux leur donner des armes, ou des compétences en tout cas, pour que ces personnes soient prêtes et qu'elles ne subissent pas les changements à venir, il me semble que là, j'aurais pas perdu mon temps en tant qu'enseignant ou responsable de formation. Le premier workshop que j'avais fait là-bas en 2017, c'était sur design et justice. Ça partait du constat que le système judiciaire français est vicié, que le citoyen ne comprend plus rien de s'il a affaire à un procès, il ne sait pas comment se défendre, etc. Ce qui, du coup, pose une question politique assez majeure, c'est est-ce qu'on peut toujours se considérer comme citoyen au sens fort si on ne comprend même plus l'environnement politique dans lequel on vit. Et donc, nos étudiants avaient travaillé avec des avocats, avaient travaillé sur des cas concrets de procès, avaient créé des interfaces, des systèmes pour se repérer dans les tribunaux, enfin, tout un tas de propositions. Ça, c'était le premier workshop. J'avais fait un autre workshop que j'avais appelé « Stranger Screens », écran étrange, si je le traduis rapidement. Et ça partait du principe qu'il y avait à l'époque des prémices que les écrans allaient sortir du format rectangulaire et devenir circulaires, pliables, etc. Ça s'est quand même en grande partie réalisé, notamment avec Samsung qui, quelques années après, a commercialisé des smartphones pliants. Et ça partait du constat qu'en fait, ces écrans, en quelque sorte impressionnants techniquement, finalement, on savait pas quoi en faire. C'est en quelque sorte des objets en quête d'usage. Ce qui est assez paradoxal parce qu'en tant que designer, on fait plutôt l'inverse. On va plutôt partir d'usage puis après se demander quel objet peut répondre à ces usages. Donc, c'était une sorte de critique ironique de cette performance technologique comme on peut avoir en Chine, notamment à Shenzhen, où du coup, on va créer des objets uniquement parce que c'est possible de les faire techniquement.
De plus en plus de personnes se reconvertissent dans le design après avoir exercé d'autres métiers. Pour cela, elles suivent des formations professionnelles courtes ou longues. Rachel nous parle de ces types de formations et des particularités des personnes en reconversion.
Il y a beaucoup de différences entre les formations pour adultes, les formations professionnelles pour adultes et les formations professionnelles pour les jeunes. C'est-à-dire les formations qui vont prendre les étudiants au bac et qui vont les amener à bac plus 3 ou bac plus 5, voilà. Les formations professionnelles pour les adultes, déjà au niveau des attentes, ils ont une attente de pouvoir postuler à d'autres postes ou alors d'être promu à un autre poste, de changer un petit peu leur ou de changer complètement de carrière. Ils veulent quelque chose qui est applicable immédiatement et donc parler avec des professionnels, leur poser des questions sur comment ils appliquent les savoirs théoriques immédiatement en contexte professionnel est extrêmement important pour eux, c'est clé pour eux. Alors que entre guillemets les jeunes, parce que bon, c'est des adultes aussi, eux, ils ont un peu plus de temps devant eux. Souvent, de plus en plus, on les a pour 5 ans. C'est-à-dire qu'ils font un bac plus 3, plus un bac plus 5. Donc, il y a un peu plus de temps devant eux pour faire plusieurs projets successifs pour expérimenter des choses. Et donc, ils sont plus partants pour quelque chose qui n'est pas directement applicable au domaine professionnel. Et d'autant plus avec les dernières promos qu'on a eues, la génération qui vient, en quelque sorte, même si c'est une expression un peu galvaudée, la génération qui vient, ils demandent ça. Je pense qu'ils ont beaucoup entendu de la part de leurs aînés des mises en garde, comme quoi une fois qu'ils seront insérés dans la vie professionnelle, ils n'auront plus le temps d'expérimenter, ils n'auront plus le temps de créer, ils n'auront plus le temps d'innover. Et donc, ils se font une image assez grise de ce que sera leur vie professionnelle, et ils ont envie de tout expérimenter, partir sur d'autres chemins, faire des choses qui sont pas directement applicables à un contexte professionnel, à la fois dans leur formation et immédiatement après leur formation. Depuis quelques années, il y a, me semble-t-il, une multiplication de formats différents et une attention portée de plus en plus sur la formation tout au long de la vie, notamment, ce qui amène à cette multiplication de formats. C'est on n'est plus sur des formations qui durent un an, qui durent deux ans. Enfin, on n'est plus nécessairement là-dessus. Ça existe toujours, mais on a une multiplication de formats, des formats plus courts, des formats synchrone asynchrone, des formats qui sont pilotés dans le temps par les étudiants. Et pas que à cause de la formation en ligne. Hein, c'est une demande des étudiants, une demande du monde d'aujourd'hui de faire évoluer ses compétences de façon un peu incrémentale. Quand on est un professionnel, faut évoluer. Donc on a de plus en plus donc ces formats, des formats courts, des formats différents. Et du coup, il faut réfléchir de façon un peu modulaire à la formation, ce qui était peut-être pas le cas avant, où on pouvait imaginer des programmes dans leur ensemble. Il y a beaucoup de questions qui se posent actuellement sur les formats un peu bootcamp, les formats courts. Et est-ce qu'on aimerait travailler en tant que professionnel du design avec des gens qui sortent immédiatement d'une de ces formations format court? Moi, en tout cas, quand j'enseigne dans ces formations plus courtes, j'ai tendance à les mettre en garde immédiatement sur le fait que après un mois d'enseignement, ce sont pas des professionnels. Ce sont pas des professionnels. C'est s'ils veulent devenir des professionnels du domaine en question, il va falloir qu'ils approfondissent énormément. C'est d'ailleurs pour ça que à partir de la formation qui dure un mois qu'on a à l'école, on a créé une formation qui a à peu près le même volume horaire, mais qui est plus échelonnée dans le temps. C'est-à-dire les étudiants viennent 3 jours par mois pendant 8 mois. Ce qui permet d'approfondir beaucoup plus, mine de rien. Ils ont des lectures qu'ils n'auraient pas en temps normal. Ils se posent des questions parce qu'ils essaient d'appliquer au fur et à mesure, dans le cadre professionnel, ce qu'ils apprennent. Ils essaient de le mettre en pratique dans le cadre professionnel. Et ça apporte énormément de choses. Et on voit une vraie différence entre à volume horaire équivalent, sur formation équivalente avec les mêmes enseignants, les mêmes enseignements, on a une différence énorme entre des gens qui ont pris le temps d'approfondir et d'appliquer et des personnes qui ont été immergées à l'école pendant un mois. Donc c'est sûr que en sortant de un mois d'immersion à l'école, on n'est pas un professionnel de l'UX. En revanche, j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens qui n'avaient eu pour toute formation qu'un bootcamp ou deux, et qui étaient d'excellents designers. Parce qu'ils avaient continué à se poser des questions, parce qu'ils avaient lu énormément, ils avaient participé à des événements, ils avaient approfondi, quoi. Ils avaient mis en œuvre avec modestie au départ, et puis en apprenant, en se posant des questions, en remettant en question leurs pratiques au fur et à mesure. Et ça, c'est un paramètre clé pour pouvoir tirer vraiment profit d'une de ces formations courtes. C'est de savoir continuer un petit peu sur la même dynamique qu'on a commencé, c'est-à-dire remettre en question des automatismes, des croyances qui sont la base de beaucoup de métiers. C'est-à-dire que si je peux enchaîner un peu sur un autre sujet, sur le sujet des personnes qui sont en reconversion et qui ont été, on dit formatées, mais en fait qui ont été valorisées, qui ont été formées selon des logiques différentes et selon des critères différents. Et devoir acquérir les logiques et les critères du design, c'est vraiment pas évident, et nous, on se rend pas compte, parce que moi, j'ai baigné dedans depuis que j'ai 12 ans. Je sais que je vais faire un métier qui est à peu près dans ces eaux-là. Mais des personnes qui se sont préparées, qui ont été valorisées par leurs enseignants, par plusieurs entreprises, à être des bons ingénieurs, à être de bons responsables marketing. C'est pas évident pour eux de revenir à zéro. D'ailleurs, personne leur souhaiterait de revenir à zéro. Il faut qu'ils arrivent à tirer profit de ce qu'ils savent déjà. Mais en même temps, c'est se tirer une balle dans le pied de vraiment appliquer à la lettre ce qu'ils ont appris. Donc, faire cette part des choses entre qu'est-ce que je peux reprendre de ce que je sais déjà faire et qu'est-ce que je dois remettre en question. C'est extrêmement compliqué, et j'ai un respect énorme pour les gens qui sont en reconversion à cause de ça. Il se passe quelque chose dans leur tête. Parfois, ça sape des fondements qui étaient là depuis longtemps et sur lesquels reposait une bonne partie de leur façon de réfléchir au monde. On se rend pas compte, hein. On se rend pas compte de ces choses-là. C'est souvent pour vraiment bien réussir une reconversion, ça prend plus qu'un mois. Et il faut le savoir. Et en général, ils le savent. Ils s'y attendent. Ça les prend par surprise quand même. mais voilà, c'est dur.
Chapitre 3. Critique des modèles actuels et les enjeux futurs de l'enseignement du design. Est-ce que l'enseignement du design est adapté aux enjeux économiques et sociaux contemporains ? Anthony et Rachel partagent avec nous leurs critiques et leur vision du futur de l'enseignement.
Je pense que ça n'a pas encore été trouvé, ou très peu. Et je pense qu'on est malheureusement dans un système d'enseignement qui est encore très proche du Bauhaus, qui date déjà d'il y a un siècle, avec un fonctionnement par atelier notamment, ce qui a évidemment des vertus. Mais je pense que l'époque contemporaine, avec toutes les mutations en cours, je vais prendre trois grands thèmes, hein, c'est pas très original, mais disons l'écologie en un, la justice sociale en deux, et en trois, la transition numérique. Je pense que ces trois grands enjeux, méta-enjeux pour toutes les écoles d'art et design aujourd'hui, et d'ailleurs pas que les écoles d'art et design, invitent à repenser en profondeur la pédagogie, mais je pense qu'on est qu'au tout début de ce chantier-là. Alors, pour préciser cette notion de découpage par discipline du design, je pense que c'est aujourd'hui anachronique et à vrai dire même contre-productif de penser comme ça. Alors, ça nécessiterait un changement en profondeur des écoles. Pourquoi je pense que c'est contre-productif ? Déjà, il suffit d'observer les pratiques contemporaines. De nombreux designers, designeuses ne réfléchissent pas du tout comme ça et adoptent des approches bien plus globales, y compris dans les agences. Et donc, on voit que du coup, on a un décalage de l'enseignement par rapport à ça. Et puis surtout, par rapport aux grands défis contemporains, si on prend juste par exemple l'écologie, si on dit qu'on va traiter l'écologie par le design graphique, pourquoi pas ? Mais évidemment, ce sera insuffisant. Et du coup, il faut des réponses transversales. Je peux vous donner un exemple d'objet assez banal, mais qui rentre pas dans ces catégories. Si on prend, je sais pas, par exemple, les montres connectées. Alors, on peut être contre ces objets-là, mais le fait est qu'ils existent. Et est-ce que c'est du design produit, design de mode ou design d'interface, design graphique ? Évidemment, c'est un peu détroit. Mais du coup, comment faire rentrer un objet comme ça dans les pédagogies actuelles si c'est segmenté ? On voit qu'on risque de traiter l'objet de façon très parcellaire, incomplète, voire pas pertinente. Un autre problème important, et peut-être même encore plus important et plus difficile à relever, à vrai dire, c'est ce qui touche à la transdisciplinarité. Je pense qu'un des problèmes majeurs dans les écoles d'art et design, c'est qu'on y parle que ou surtout d'art et design, ce qui paraît logique vu le titre des écoles, mais le design, il est par essence transdisciplinaire. On fait design pour designer, c'est jamais très intéressant. Et je pense qu'il y a un grand défi à relever sur des liens pertinents, parce qu'ils peuvent aussi malheureusement ne pas l'être, avec d'autres champs comme les sciences sociales, l'ingénierie, l'économie-gestion, etc. Et ça, c'est un défi important parce que ces types d'écoles, aujourd'hui, développent de plus en plus de l'enseignement du design, mais qui est évidemment un autre type de design qui est plutôt du design thinking. En tout cas, comment dire, il y a le mot design qui apparaît, mais les méthodologies qui sont opérées dans ces écoles, notamment l'école de gestion, viennent du champ du marketing. Et que donc, si les écoles d'art et design ne saisissent pas rapidement d'enjeux transversaux ou de collaboration, il y a un risque de concurrence par ce type d'école qui bénéficie peut-être d'une crédibilité plus importante pour une grande partie de la population, mais avec un risque assez fort de dévoiement ou d'instrumentalisation du design à des fins pas très soutenables ou recommandables. Les trois enjeux seraient l'écologie en un, la justice sociale en deux et en trois, la transition numérique. Et ces trois thèmes-là, à vrai dire, ils sont pas ignorés, ils sont abordés dans la plupart des écoles avec plus ou moins de réussite. Après, je pense que le gros défi, ça va être de les mettre en connexion. L'écologie renvoie évidemment à la crise climatique ou aux crises climatiques qui se succèdent ou en tout cas qui s'accélèrent. De plus en plus d'écoles d'art se saisissent de ces questions et se demandent comment, en tant que designer, on peut aborder ces enjeux-là pour créer un monde encore habitable à horizon finalement assez proche. Donc il y a plusieurs formations qui s'orientent là-dessus, sur notamment qu'est-ce que ce serait un design pour les non-humains. C'est assez paradoxal parce que du coup, dans l'histoire du design, on s'est surtout centré sur l'homme, la posture humaniste, mais du coup, cette posture humaniste devient, à vrai dire, assez vite anti-humaniste dès lors qu'elle se concentre uniquement sur l'être humain, parce que l'être humain peut pas exister isolément de l'écosystème biologique. Le deuxième enjeu, c'est la justice sociale, qui renvoie à plusieurs choses, en tout cas au sens large, des enjeux de discrimination, mais de différents types. Tout d'abord de genre ou d'orientation sexuelle. Comment on peut accueillir des personnes avec différentes orientations sexuelles dans les écoles pour éviter qu'elles se sentent discriminées. Et puis aussi, comment, depuis l'école, on peut créer d'autres systèmes de valeurs ou des objets, des campagnes de sensibilisation. En tout cas, tout un tas d'actions, de connaissances, de productions pour réduire, parce qu'on va pas les abolir malheureusement, aussi simplement que ça, ces discriminations dans le champ social au sens large. Donc là, ça renvoie à une sorte de position sociale de l'école pour la société en quelque sorte. Discrimination de genre, je l'évoquais, également ethnique. J'ai tout à l'heure évoqué un manque de diversité au niveau du corps étudiant dans les écoles d'art et design, parce que c'est des sections, des études qui durent longtemps, qui coûtent relativement cher et qui, du coup, ont beaucoup d'incertitudes sur l'insertion du marché. Et donc, on peut imaginer assez facilement que des populations de classe peu aisées ou moyennes vont pas vraiment avoir envie d'aller dans ces études-là. Du coup, les positions critiques vont être énoncées par des gens qui jouissent de beaucoup de privilèges. Du coup, on peut vite se mettre à parler à la place d'autres personnes plutôt que d'entendre la parole des personnes concernées. Discrimination ethnique également auprès du corps enseignant, trop peu de diversité, ce qui du coup va avoir des problèmes sur les productions qu'on va créer. Dire, est-ce qu'on va créer des productions uniquement pour des gens qui nous ressemblent? Ça, c'est un problème majeur aujourd'hui dans les GAFA, qui du coup, avec des employés finalement pas si nombreux, créent des objets utilisés par des milliards de personnes. Donc, on a une asymétrie complètement dingue, à vrai dire assez unique dans l'histoire de l'humanité. Ou si on prend Facebook, qui a environ 2 milliards d'utilisateurs actifs, utilisatrices, pardon. Du coup, peut produire un objet le plus grand média jamais fait dans l'histoire de l'humanité, avec une interface qui est finalement inventée par assez peu de personnes. Et des personnes homogènes, privilégiées, basées à San Francisco, américaines, occidentales, etc. Et du coup, ça crée un problème quand ces produits-là s'adressent à la terre entière et à des habitants, évidemment, en culture très, très, très différente. Donc, comment on évite ce risque de globalisation esthétique et d'homogénéisation de formatage global, voire de discrimination? Il faut du coup impliquer des personnes concernées dans ces enjeux, se saisir de théories contemporaines qui aujourd'hui agitent beaucoup nos ministères en France davantage que les enjeux de discrimination. Je pense notamment à un colloque anti-woke qui s'est tenu récemment à Paris sous l'égide de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Pourtant, ces théories sont très fécondes pour penser ces croisements ou ces enjeux de discrimination. C'est ce qu'on appelle les théories intersectionnelles, qui du coup montrent comment différentes discriminations entrent en collision ou en accumulation. Et ça, c'est très très fécond pour du coup penser un écosystème d'objets plus juste à l'échelle humaine. tout cas, tous ces enjeux de justice sociale sont de plus en plus réclamés par les étudiants et étudiantes. Ça renvoie également à l'histoire du champ global du design et comment on pourrait décoloniser ce champ-là pour aller vers des approches plus ouvertes, vers d'autres cultures, d'autres continents, voire d'autres époques. Voilà, propose des choses pour renouveler nos imaginaires occidentaux assez vite stéréotypés. Je pense notamment au mouvement afrofuturiste qui est très intéressant et qui du coup peut permettre de prendre de la distance par rapport à une vision de la science-fiction ou de la technique toute puissante et qui du coup fait qu'on est toujours en train d'attendre des voitures volantes alors que c'est une catastrophe du point de vue écologique. Donc cet imaginaire, il est très pauvre et il peut être renouvelé grâce à un intérêt vers d'autres cultures. Également dans le design graphique, si on prend le champ de la typographie par exemple, c'est une catastrophe de voir que, je sais pas, 90% des productions sont des alphabets latins et que du coup, ben tout le reste de l'humanité, tous les autres alphabets sont très très peu traités par les designers graphiques. Je pense notamment aux alphabets africains. Il y a très peu d'exemples de police panafricaine par exemple. C'est en train de changer, mais c'est encore un grand défi pour aller vers plus de diversité à ce niveau-là. Et ça peut aussi renouveler les façons de créer des signes. Ben voilà, si on s'intéresse par exemple à l'écriture japonaise, aux écritures africaines ou coréennes, etc. Bah du coup, on va trouver de quoi renouveler également les alphabets latins. Donc c'est aussi un problème pour la création à l'origine occidentale de se fermer autant. Et le troisième enjeu, c'est la transition numérique. Alors, ou les transitions numériques. Transition vers quoi, d'ailleurs? On peut se poser la question. Il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est, à vrai dire, le champ que je connais le mieux des trois enjeux. Je pense notamment à la blockchain, donc à ces systèmes de valeurs qui dépassent la monnaie pour aller vers des certifications de fichiers. Il y a l'intelligence artificielle qui est un enjeu tout à fait majeur. Moi, je suis assez, à vrai dire, catastrophé de voir qu'en France, il y a peut-être environ 10 personnes aujourd'hui dans les écoles d'art et design qui s'intéressent un tant soit peu sérieusement aux enjeux des intelligences artificielles, alors que c'est un paradigme supérieur à la publication et à la conception assistée par ordinateur qui ont modifié énormément le champ du design il y a déjà 30 ans, même plus, et que du coup, c'est comme si on n'avait pas appris de cette histoire et qu'on fait toujours l'autruche en se disant « mais oui, une machine pourra jamais créer, pourra jamais remplacer les designers », mais c'est vraiment très très mal posé le problème que de placer à ce niveau aussi schématique. Et que malheureusement, si les écoles d'art et design ne se saisissent pas urgemment de ces enjeux, ben elles vont se retrouver soumises à des productions qui seront créées par des ingénieurs. Et du coup, leur voix ne sera pas entendue. Le fait de négliger à ce point les enjeux économiques font que ça place les futurs diplômés dans une position d'assignation ou disons d'employabilité et pas une prise de position d'autonomie. C'est-à-dire que ça va cantonner les diplômés à un rôle d'exécution par rapport à des décideurs, genre volontairement masculin, parce que c'est souvent des hommes, malheureusement, qui, du coup, vont dire aux designers quoi faire. Alors, du coup, c'est vrai que souvent, c'est là un contre-argument qu'on porte au design, quand on dit le design, il doit être responsable, etc., mais on dit oui, mais les responsables, c'est d'autres personnes. Et oui, mais du coup, on peut retourner encore la question, c'est de dire, mais pourquoi, du coup, la plupart des designers ne sont pas en position de responsabilité? Bah là, du coup, je donne un argument, je pense, assez concret, c'est que, une méconnaissance de l'environnement économique fait que, malheureusement, ils et elles ne vont pas se placer dans ces positions-là. Il y a très très peu d'exemples d'entreprises créées par des designers, malheureusement. Il y a aussi, en France, je connais aucun exemple d'incubateur d'entreprise relié à une école de design. Peut-être que les auditeurs et auditrices me détromperont. Je serais content d'apprendre des choses. On voit qu'on est dans une sorte de cercle vicieux. La responsabilité n'est pas prise. Le désintérêt ou l'ignorance d'un certain nombre de champs émergents font que, du coup, les écoles de design, je pense, vont subir ces changements-là au lieu de les anticiper.
Alors là où les formations en design, à mon avis, sont pas au niveau des attentes ou au niveau des besoins des apprenants, c'est notamment, je parlais de la formation sur toute la vie et du fait de d'échelonner son apprentissage tout au long de sa vie professionnelle. Là-dessus, on a une pauvreté de format. Alors les cours du soir, c'est génial. Les MOOC, c'est génial. Il y a déjà pas mal de formats. En revanche, en parlant avec des personnes qui soit étaient en reconversion totale, soit ont essayé d'acquérir une nouvelle corde à leur arc. Et de l'appliquer dans le monde professionnel, il y a quelque chose à travailler sur une articulation fine entre du mentorat, des cours synchrones et des contenus asynchrones. Il y a plein de formats à inventer là-dessus, de façon de valider les choses qui... Imaginez une souplesse entre la validation d'acquis de l'expérience et la validation, l'évaluation d'un devoir scolaire. Il y a des espèces de passerelles à imaginer entre tout ça. Ça reste des formats rigides et qui n'échangent pas entre eux. Et en fait, centrer autour de l'apprenant et de son évolution de carrière, si on le faisait vraiment, ça voudrait dire quelque chose de complètement différent et quelque chose qui, pour moi, est excitant à imaginer pour demain. C'est comment vraiment on rend service à quelqu'un qui veut évoluer dans sa carrière professionnelle et comment on lui rend service dans le contexte de sa vie et de ses préférences d'apprentissage. C'est hyper intéressant.
Chapitre 4, la recherche en design. Pour approfondir le sujet de l'enseignement du design, nous nous concentrons sur un milieu plus spécifique, la recherche en design. Ce champ, malgré sa croissance depuis quelques années, rencontre de nombreux défis particuliers, notamment un manque de reconnaissance dans le monde académique. Anthony et Jocelyne nous expliquent cette situation.
En France, la situation est assez épineuse de ce point de vue-là, parce que le design n'est pas une discipline reconnue par le Conseil national des universités, le CNU, qui est l'organisme qui régit, on va dire, la vie des universités et en partie les conditions pour être recruté. Et le design est rangé dans un champ qui s'appelle art. En grande partie, il est dans ce champ-là. Il a pas d'autonomie. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les personnes qui soutiennent des thèses relatives ou qui concernent le champ design en France, se trouvent éparpillées dans tout un tas de champs du CNU. Donc, majoritairement dans le champ art, mais ça peut aussi être en sciences de gestion, ça peut être en sciences de l'information, ça peut être sans doute encore dans d'autres champs dont j'ai pas idée. Ce qui du coup crée négativement un manque de reconnaissance et de crédibilité, également une difficulté à obtenir des financements de recherche. Si on prend le principal bailleur de fonds français qui est l'Agence nationale pour la recherche, l'ANR, je parle en 2022, uniquement deux projets de design en tout, qui revendiquent clairement le design ont été financés par cet organisme. Le deuxième, d'ailleurs, j'ai la chance de faire partie de l'équipe qui traite des archives du cartographe Jacques Bertin. C'est un projet qui est porté par Anne-Lise Renon, qui est maître de conférence en design à Rennes 2, en partant avec le HESS. Tout ça entraîne un peu un cercle vicieux. Le design n'étant pas reconnu comme une discipline universitaire, et on n'obtiendra pas de financement, etc. Du coup, il n'est pas reconnu, du coup, on a encore moins de financement. Alors, ça, c'est négatif. Maintenant, est-ce que ce serait une situation préférable si le design avait était reconnu comme une case du CNU? Je me pose la question. Je pense qu'il y a aussi des inconvénients. C'est-à-dire que, du coup, ça obligerait à définir, à cadrer vraiment ce champ-là. Et du coup, on pourrait tomber assez vite vers une approche stéréotypée où on dirait, ce qui rentre comme design doit répondre à tel et tel critère. Alors que, paradoxalement, l'éparpillement dans tout un tas de champs crée un problème de visibilité et de crédibilité, mais crée aussi une grande liberté. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'inventer, de bricoler, d'être à la jonction de tout un tas de champs. Ce qui est inconfortable, mais ce qui est aussi finalement assez créatif. Et j'ai peur que si du coup demain le design devenait un champ du CNU, on perd de ça. Maintenant, la recherche en design du coup en France, elle se fait de différentes façons. Donc j'ai évoqué ces questions d'inscription disciplinaire au niveau des universités, qui du coup peuvent quasiment à elles seules en France aujourd'hui délivrer les thèses de doctorat. Une école du ministère de la Culture et de la Communication, à l'heure actuelle, peut-être ça changera à l'avenir, mais ne peut pas délivrer une thèse uniquement par elle-même. Cette thèse doit être cohabilitée avec une université. Et l'éducation nationale fait un peu bande à part en n'ayant pour l'instant pas grand-chose à proposer ou à dire de la recherche, c'est-à-dire post-master. Et j'assume ces propos. Aujourd'hui, dans l'éducation nationale, c'est même presque un handicap d'être doté d'un doctorat, parce que du coup, c'est tellement rigide la plupart du temps qu'on peut même pas s'absenter pour faire une conférence, intervenir, etc., obtenir des financements. On n'est pas crédible non plus quand on intervient dans des colloques. C'était mon cas. Quand j'étais dans l'éducation nationale, c'était plus compliqué d'être invité à des événements. Et dès lors que j'avais un poste à la fac, on m'invitait beaucoup plus facilement, alors que je suis pas devenu plus intelligent du jour au lendemain. Donc ça c'est un vrai problème, ces étiquettes et cette division par ministère, qu'on retrouve beaucoup moins dans un pays comme la Suisse, où du coup la distinction entre université et école d'art est plus ténue, parce que l'école où je me trouve, la HES, la HED, qui fait partie des hautes écoles spécialisées, serait en France une sorte de mix entre une école d'art et une université. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, 38 projets de recherche en cours, on a 5 doctorats financés sur fonds propres, en tout on a 8 doctorants, parce qu'il y a d'autres financements, donc très très forte activité de recherche pour une école qui, somme toute, 700 étudiants, ce qui est grand, mais qui n'est pas non plus énorme comparé à d'autres écoles dans d'autres champs que l'art et le design. Mais ça tient aussi à une autre structure juridique qui fait que ça favorise, il y a plus de financement, il y a aussi plus de redistribution du privé vers du privé vers le public. Ça, c'est aussi quelque chose dont on pourrait parler, qui est un frein pour la recherche en design en France. Si on prend une entreprise comme Vuitton, par exemple, elle a créé sa fondation, qui est très luxueuse, etc., près de Paris. Mais du coup, on imaginerait très mal Louis Vuitton payer 2 ou 3 bâtiments pour une école de design en France. Et pourtant, c'est des choses qui se passent assez couramment en Suisse. Ce qui est le cas pour mon école, par exemple. Donc, il y a pas ou si on prend Carrefour, on n'imaginerait pas vraiment un musée de design contemporain ou d'art contemporain Carrefour qui soit pointu et intéressant. C'est ce qui passe en Suisse. On a le Migros Museum à Zurich qui a une programmation très, très pointue, qui peut rivaliser avec le Palais de Tokyo, pas en termes d'échelle, mais en termes de vision. Et c'est financé par Migros, qui est le Carrefour suisse, en quelque sorte. Donc, du coup, il y a une frilosité des acteurs privés en France qui ont pourtant beaucoup d'argent. En disant qu'il n'y a pas d'argent en France, mais c'est quand même le 6e ou 7e PIB mondial. C'est plutôt un problème de redistribution que de moyens globaux, je dirais. Donc, j'espère que les acteurs privés comprendront l'intérêt social et peut-être même leur intérêt tout court à s'investir et à investir, du coup, le champ de la recherche en design, également d'un point de vue patrimonial, parce qu'on a aussi une difficulté à mettre en avant et à communiquer ce qu'on fait. Et je pense que là, il y a des enjeux importants de diplomatie à mener par les écoles qui font face à beaucoup de réduction drastique, de manque de financement de l'État, à aller chercher des fonds privés sans se corrompre. Et c'est un défi assez compliqué, parce que du coup, après ces quelques éléments de discussion, on pourrait se demander qu'est-ce qui fait que cette reconnaissance n'existe toujours pas. Après tout, on a d'excellentes écoles de design en France, des designers qui sont reconnus, qui sont des pointures à l'échelle internationale. Qu'est-ce qui se fait? Pourquoi on n'a pas cette reconnaissance plus large? Peut-être qu'il faut aussi faire une autocritique, je pense, à ce niveau-là. Il y a des facteurs exogènes, mais il y a aussi des facteurs endogènes. Et donc, pour les facteurs internes, je dirais que peut-être qu'on est trop resté trop longtemps à se regarder nombril et à faire des projets entre designers et artistes, pour designers et artistes, en tout cas, au moins dans la valorisation et dans la communication. On n'a peut-être pas réussi à expliquer assez à la société civile au sens large l'intérêt de ce type de démarche-là. Je vais donner un exemple. Il y a toute une partie de la presse où vous trouverez jamais un article qui parle de design. Si on prend la presse, on va dire, avec des gros guillemets de droite, si on prend par exemple le Figaro, les Échos, Challenge, qui sont des revues très, très consultées, qui sont lues par des décideurs, des personnes qui sont en position d'agir et débloquer des budgets. Il n'y a pas de journaliste qui, aujourd'hui, dans ces revues, parle, je sais pas, de la refonte de Total, d'identité visuelle de Total, ou de logo de tel parti politique. Et du coup, ça, on pourrait peut-être un peu faire un cheval de Troie pour arriver dans ces types de médias. Et je pense qu'il y a la place, il y a le besoin d'investir ces médias-là et d'y parler de design plutôt que uniquement d'enjeux économiques et politiques, ou plutôt de montrer que ces enjeux politiques et économiques peuvent aussi être des enjeux de design et qu'il y a des choses très concrètes qui se passent. Donc, occuper le terrain, ne pas le laisser à d'autres. Aujourd'hui, il y a peut-être Libération, Le Monde et Télérama qui parlent de design, pas tant que ça, mais qui en parlent quand même, mais le reste de la presse quasiment jamais. Donc je pense qu'il faut aussi que les écoles et que les designers aussi investissent davantage chez les médias, un grand public, pour du coup créer une dynamique de compréhension à l'échelle de la société civile, et qui du coup après par ricochet pourra provoquer, j'espère, une meilleure reconnaissance de ce domaine-là. Donc la pédagogie, elle doit se faire à l'extérieur, et ça c'est un vrai souci quand on regarde les critères de recrutement des enseignants enseignantes, notamment à l'université, c'est que ce qu'on peut appeler la vulgarisation ou la valorisation est très très peu prise, voire pas prise en compte dans l'avancement de carrière et dans les recrutements. On va plutôt chercher des personnes qui vont développer des recherches pointues dans tel domaine, qui sont reconnues sur le plan professionnel, qui peuvent aussi donner des cours intéressants et structurer des cours, ce qui est évidemment nécessaire. Mais on devrait aussi regarder la capacité à déplacer ce qu'on fait vers d'autres types de sociétés, ou en tout cas d'autres types de personnes dans une approche très, très, très ouverte. Et je pense que du coup, il faut réhabiliter la vulgarisation comme étant un champ important de la recherche. Ça me semble absolument nécessaire. Et du coup, de le valoriser également dans les carrières pour inciter les collègues chercheurs et chercheuses à faire ce type d'effort. Donc, ça peut aussi être parler à la radio, à la télévision, etc. Il faut, on a besoin de davantage de visibilité.
Alors, la recherche en design en France est effectivement quelque chose de relativement récent. Disons que ça émerge dans la première décennie du 21e siècle, enfin, depuis 15 d'années peut-être. Alors pourquoi je pense qu'on est resté en France sur un enseignement qui était professionnel, donc issu des arts appliqués, et qui ne s'inscrivait pas en fait dans une tradition universitaire. Ben, il y a cette question française là qui fait que cet enseignement des arts appliqués est resté dans les écoles et pas à l'université. Et on a une tradition universitaire qui a maintenu longtemps une distinction entre la production de connaissances des sciences fondamentales et puis ce qui relève justement des arts appliqués, donc une coupure entre la théorie et la pratique. C'était la même chose d'ailleurs pour l'architecture, qui a développé certainement, qui a développé une recherche plutôt qu'en design. En tout cas pour la France, j'insiste bien parce que dans les pays anglo-saxons, on a une recherche en design qui se développe depuis les années 60. Alors c'est une recherche qui du coup va être attachée à différents contextes institutionnels et à différents champs disciplinaires puisque les grandes écoles en fait qui ont pour faire valoir un haut niveau de qualification et qui ont opté donc pour la mise en place de doctorats doivent instaurer des partenariats avec des labos universitaires. Et c'est pas toujours évident d'ailleurs pour les étudiants de s'y retrouver parce que ils sont inscrits en fonction des problématiques de leur projet de recherche dans différentes disciplines. Donc ça soulève des questions par exemple comme celle de la publication, hein, il faut trouver les bonnes revues pour publier, il faut avoir les codes qui vont bien pour publier dans telle ou telle revue. Et alors pourquoi ce rattachement à différentes disciplines ? Eh bien parce qu'en France, on n'a pas de catégorie design au Conseil national des universités. Alors il y a des thèses en design, en esthétique, en sciences de l'art, mais sur d'autres, enfin des problématiques de recherche qui ne s'inscrivent pas ni en esthétique ni en sciences de l'art, c'est assez compliqué et donc on se retrouve avec effectivement des designers qui sont dans des labos académiques qui peuvent être je sais pas en infocom ou dans d'autres types de labos. Pour en revenir aux écoles et cette mise en place un petit peu complexe des thèses qui supposent des partenariats donc avec les labos universitaires, c'est tout un travail aussi, il faut dire, d'acculturation des enseignants dans ces écoles qui n'ont pas cette culture de la recherche. Donc, quand on a monté les Design Labs à l'école, c'est aussi tout un travail non seulement de renouvellement, de l'enseignement dans les masters, mais c'est aussi tout un travail avec les enseignants pour avancer sur toutes ces questions de recherche. Si je reviens à la problématique des revues, c'est donc assez compliqué, effectivement, de trouver la bonne revue pour un étudiant en thèse, en design. La revue Sciences du Design, qui est une revue interdisciplinaire, est intéressante comme opportunité qu'elle peut donner justement pour des publications qui sont à la fois en design et sur le design, qui fait valoir en fait une recherche qui est interdisciplinaire. Sur un plan personnel, cette recherche, moi j'ai participé beaucoup à cette mise en place à l'école de design Nantes-Atlantique parce qu'il me semblait que c'était intéressant en école professionnelle d'introduire cette dimension de recherche pour prendre du recul, pour enrichir les connaissances, les programmes, en croisant les savoir-faire, les apprentissages métiers, la connaissance qui vient des métiers par le savoir-faire, mais aussi un mode de questionnement et d'analyse qui telles qu'elles sont enseignées dans les universités. Donc, on est encore sans doute sur les fonds baptismaux par rapport à tout ça, mais on a quand même bien avancé. En particulier, on a participé au montage d'un programme régional qui s'appelle OS Industrie Créative, qui est piloté par l'Université de Nantes, mais qui a été en copilotage avec l'école de, qui est en copilotage avec l'école de design, qu'on a voulu orienter sur l'expérience usagée. Et c'est un programme qui nous a ouvert des possibilités, qui a ouvert pas seulement aux écoles, c'est un programme régional pour les universités, les écoles, qui justement veut rapprocher les écoles d'art, les écoles de design et l'université, et permettre des cofinancements en fait pour toutes sortes de projets, en particulier pour des thèses, mais aussi qui permet aux étudiants de différentes écoles de travailler avec des étudiants à l'université sur des projets expérimentaux dans différents domaines. Donc c'est cet aspect de la recherche, ça a permis aussi beaucoup de croisements interdisciplinaires et de croisements entre institutions. Et il y a à la fois des montages institutionnels, bon, il faut aussi trouver de l'argent, il faut avoir des partenaires politiques, etc. Mais il faut toutes ces conditions-là, pourquoi, en fait, quels sont les objectifs? C'est de mettre des étudiants de différentes formations ensemble et de voir comment on peut réfléchir ensemble autour de nouvelles formes d'innovation qui fassent sens par rapport aux besoins qui sont ceux de notre société actuelle et qui, comme je disais tout à l'heure, donc permettent de réfléchir, de mettre en cause en tout cas un modèle qui est le modèle consumériste qui semble actuellement, qui est actuellement remis en question avec toutes les problématiques écologiques qu'on connaît.